À toutes et à tous, que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Amen. Que nous puissions retirer de cette parole les bénédictions. On l'a chanté tout à l'heure, que les bénédictions de Dieu ils sont sur nous, et surtout ceux qui lui ont fait confiance. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en vacances. Il y en a qui partent en Amérique, comme notre frère. Merci Seigneur de nous l'avoir amené. Il y en a qui sont partis en Guadeloupe, en Martinique. Et si je vous pose la question, où est-ce que vous voulez aller en vacances, vous?
En Italie.
En Italie, ouais. Hein?
En Sardaigne.
En Sardaigne, oui, merci de me rappeler les endroits d'où je viens. Les vacances. Dans le
cœur.
Dans le cœur. C'est difficile pour nous les hommes, partir dans le cœur. Mais il se rapproche un peu à mon souhait. Moi, mes vacances, j'aimerais les passer au ciel. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Le ciel. Ouais. Ma femme, elle vous le dira, mon mari, il n'aime pas les vacances. Et c'est vrai. J'aime pas les vacances. Mais lorsque je pense au ciel, mon cœur se merveille. Je dis, il y a tant de choses à voir. Mais ça, je le verrai une fois que je suis là-haut. J'ai juste à pencher la tête et je vois tout. Miami, où il y a été les frères, Guadeloupe. Je verrai tout ça. Et gratuitement. Voilà pourquoi... Le ciel, c'est quelque chose qui doit toucher les chrétiens. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions au sujet du ciel. Par exemple, nous reconnaîtrons-nous au ciel? Allons-nous au ciel immédiatement? Ou est-ce qu'on va rester dans la tombe comme quelques-uns y pensent, Ils disent que lorsque Jésus il va revenir, c'est là qu'il y aura la rentrée au ciel, n'est-ce pas? L'éternité, est-ce que c'est un temps qui ne s'écoule pas? Un temps où est-ce qu'on va faire toujours les mêmes choses? Et qu'allons-nous faire au ciel? C'est toutes des questions qu'on se pose. Mais il faut tout de suite mettre les bémols, comme je l'ai dit ce matin, qu'aucun pasteur... Aucun théologien, il peut tout expliquer ce qui concerne la Bible. Ou qu'est-ce que c'est qu'on va faire au ciel? Personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que on n'a pas la compréhension de cela. Et vous savez, les apôtres, lorsque Jésus leur parlait, en leur disant qu'il allait revenir et que ces pierres... En regardant les temples, ils seraient tous détruits. Dans Actes, pour ceux qui prennent note, Actes 1, 6 et 7, Jésus il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais mon Père seul, il a ce pouvoir-là et cette connaissance. Il y a des limites à notre connaissance et il y a des limites aux questions qu'on peut se poser. On a entre nos mains la parole de Dieu dans laquelle il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre bénédiction, pour notre bonheur. Après, bien sûr, en tant qu'homme, nous nous posons d'autres questions. Et qu'est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qu'on va faire là? Comment il sera? Comment il ne sera pas? Ça, ce n'est pas des questions que Dieu nous a expliquées. Donc, nous devons le laisser de côté. Et Jésus, il a expliqué ça dans Jean 3, 12. Il dit au peuple, il dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et c'est vrai qu'il y a des choses ici-bas, sur cette terre, qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. La relativité arithmétique, comment ça s'appelait, à Archimède. comment fonctionne l'ordinateur, dans une petite boîte qu'on peut se promener, voilà, qu'on peut parler à quelqu'un qu'il est à des milliers de kilomètres. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ? Parce que notre intelligence est limitée. Hein ? Il nous le dit, hein ? Et nous, aujourd'hui, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie, mais un jour, tout va s'ouvrir, le ciel. Paul, il nous parle, il dit, je connais un homme qui est monté au troisième ciel et il a entendu des choses qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez tous, bien sûr, je suis sûr et certain, qu'il y a trois cieux. Qui peut me les nommer ? Donc, vous ne savez pas tous. Hein? Alors, le premier ciel, c'est quoi ? C'est où est-ce qu'ils volent les oiseaux, n'est-ce pas ? Le deuxième, c'est l'atmosphère, où il y a toutes les galaxies, et il y a le troisième ciel, et c'est l'habitation de Dieu. Et c'est là que cet homme, que Paul il dit, il est monté. Et il a vu et il a entendu quelque chose, des choses qu'il a du mal à exprimer, à montrer. Voilà pourquoi beaucoup ils disent, Paul, il était malade. Bien sûr, il était malade comme nous tous. Mais il nous a dit qu'à cause de cette connaissance que Dieu lui a montrée lorsqu'il est monté au troisième ciel, Dieu il lui a donné une écharde. C'est-à-dire que chaque fois que cette pensée qui lui venait de dire « Tiens, je vais raconter qu'est-ce que j'ai vu au ciel », il y avait un ange qui le soufflait. Il soufflait ou le giflait. Et il a prié, « Seigneur, délivre-moi de ça, parce que je veux faire connaître ces choses que j'ai vues, comment je t'ai vu. » Non, Dieu, il lui a dit, « Tu ne dis rien. » Voilà pourquoi c'est très important. Et il y a quelqu'un qui dit, Pascal, il dit, « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpasse. Elle n'est pas faible si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. Si les choses naturelles la surpassent, que dire des choses surnaturelles ? C'est un peu ce qu'il dit Jésus. Si je vous parle des choses terrestres, comment voulez-vous comprendre les choses terrestres, célestes ? Toutefois, il y a des choses que nous savons, sur lesquelles on peut se baser. Et toutes ces choses-là sur lesquelles on doit se baser, c'est sur ce que Jésus il nous a dit, sur ce que la Bible il nous dit à propos de ce ciel. Et il y a beaucoup de choses que Jésus il nous dit, Dieu il nous révèle dans la parole à propos du ciel. Pourquoi est-ce que nous devons faire confiance à Jésus ? Parce qu'il nous le dit lui-même dans Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu. Et voilà pourquoi nous pouvons faire confiance. Et voilà d'où ils viennent nos certitudes à propos du ciel. Des certitudes qui sont dans la Bible et pas des certitudes que chacun de nous, notre propre intelligence, il peut ressortir ou il va essayer de connaître. Et nous allons voir des images que la Bible il nous parle à propos de ce ciel. Qu'est-ce que c'est que la Bible il nous donne comme image de ce ciel ? Ce sont des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles, ce n'est pas des choses inventées. Pourquoi ? Parce que la Bible, c'est Dieu qui l'a inspirée. Voilà pourquoi nous faisons confiance à la Bible. La première image du ciel que nous avons, c'est que le ciel, il est comparé à un jardin. Le ciel, c'est un jardin. Vous vous en souvenez, lorsque Jésus était sur la croix, à sa gauche et à sa droite, à sa droite et à sa gauche, hein, voilà, il y avait deux brigands. Il y a un brigand qui l'insultait et l'autre qui se repentit. Et alors Jésus, il lui a dit dans Luc 23, 43, il dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis. Le paradis. Hein? Le mot paradis vient du grec qui signifie jardin. 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 Hein? Et regardez ce qu'il nous dit à propos de ce jardin d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2, le verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, qui est dans le jardin de Dieu. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu, dans le ciel, il y a l'arbre de la vie. L'arbre de la vie dont l'homme il avait été privé à cause du péché. Mais grâce à Jésus-Christ, c'est lui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Hein? Nous ne terminerons pas notre vie au cimetière comme quelques-uns y pensent, mais nous terminerons notre vie dans le jardin de Dieu, dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu. Et ça, c'est une assurance que personne ne peut nous enlever. Alors vous me direz, comment il est ce jardin? Comment il est ce paradis de Dieu? Regardez Apocalypse 22. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà, c'est l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Hein? Et voilà ce que Jésus y révèle à Jean. Et il dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de deuil. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est ça la réalité. Dans tous les versets, tout dans les versets, nous parle des beautés, des perfections, des plénitudes. Et tout cela, il se trouve dans le ciel où nous allons bientôt, si le Seigneur y revient et il nous prend tous de notre vivant, où ils sont tous nos frères et sœurs qui sont déjà morts. Voilà, c'est l'image que le Seigneur il nous donne du ciel. Voilà le ciel. Une deuxième image que le Seigneur il nous donne du ciel. Et nous la trouvons dans Jean 14, verset 1. C'est l'image d'une maison. Hein? Le ciel est une maison. D'ailleurs, Jésus, il nous le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le ciel est la maison du Père. Mais à la différence des maisons que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une maison de pierre. Ce n'est pas une maison qu'il faut rattaper. Ce n'est pas une maison qui va s'user. C'est la maison du Dieu Tout-Puissant. Et cette maison, il nous est réservée, comme il nous est dit ici. Hein? C'est la maison Et en plus, c'est la maison, comme on l'a dit, avec un jardin. Qui de nous, lorsqu'on s'est pas marié, s'est marié, il a dit, ah, j'aimerais voir, mon chéri, j'aimerais avoir une maison avec un jardin. Mais nous l'aurons, Dieu, il est en train de nous la préparer. C'est la maison du Père, de notre Père, avec un jardin dans lequel nous aurons une vie agréable, une vie à l'abri de tout ce qui peut nous humilier aujourd'hui. C'est le vrai bonheur. C'est la maison du Père. Tout est en ordre, bien propre. Hein? Et au ciel, nous y sommes attendus. Nous y sommes attendus. Vous n'avez jamais réfléchi à cela, que si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes attendu. L'exemple, Étienne. Vous connaissez tous Étienne, n'est-ce pas? Il était là, en train d'être lapidé, il lève les yeux aux cieux, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus qui se lève de son trône pour l'accueillir. Tout est prêt dans cette maison du Père pour tous ceux qui ont fait confiance au Seigneur. Quel besoin j'ai de connaître autre chose que cela? J'ai aucun besoin. Déjà, pour ces deux choses qu'on a vues, que le ciel, c'est un jardin, c'est un paradis, c'est le paradis de Dieu, et que ce ciel, c'est la maison du Père, avec tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être heureux, pourquoi chercher à se poser des questions qui vont nous casser la tête? Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas la réponse. Et c'est alors qu'on se tourne vers d'autres qui, soi-disant, ils ont une expérience, qu'ils connaissent, ou des gens qui, soi-disant, ils sont passés pour un moment dans la mort et ils sont revenus nous dire, personne n'est revenu ici-bas une fois mort, sauf une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Sinon, ne croyez pas tous ceux qui vous disent « Ah, il est revenu des morts qu'il était. » Personne. Car ceux que Jésus il a ressuscité, ils sont morts de nouveau. Voilà pourquoi ce dont nous avons besoin, c'est, il est là, tout expliqué. Une autre image, nous l'avons de ce ciel, est la maison du Père. Et pour toujours et pour l'éternité. On ne part pas en vacances. Un mois de vacances, deux mois de vacances. Non, c'est pour toujours. Pour toujours. Et il nous l'a dit, regardez ce qu'il nous a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Regardez. Je vais bien le trouver. Hébreux 13, 14. Voilà ce qu'il nous a dit. Car nous, c'est les chrétiens, ceux qui ont Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre cité permanente, ce n'est pas Argenteuil, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Italie. Mais c'est la cité céleste qui Dieu il nous a réservée. C'est une cité permanente, pour toujours. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsque Dieu il nous amène au ciel, c'est pour que nous y demeurions. Abraham, il nous l'a montré. Abraham, il a été dans le pays promis. Mais il n'a jamais eu aucune possession parce qu'il a dit, ici-bas, rien ne m'appartient. Ce que j'ai devant moi, c'est la cité céleste. Encore une fois, on est ici de passage. On n'est pas permanent. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Et qui dit mourir, il dit déménager. Eh oui. Il faut déménager. nous étions là, on va à quelque autre part, ou dans les séjours des morts, ou sinon dans le ciel, dans ce paradis que Dieu il nous a préparé. Et c'est une demeure permanente, pour toujours. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir au plus profond. Car Jésus, lorsqu'il nous sauve, il nous sauve pour toujours. Et Jésus, il est suffisant pour toutes choses. C'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Hein? Pas de taxes foncières, pas de charges, pas d'impôts. Pourquoi? Parce que Dieu, il pourvoit en toutes choses. Il a préparé pour chacun de nous. Et cette place est réservée. Il n'est pas marqué dans la Bible, mais je crois que dans le ciel, il y a marqué notre nom. Il y a une chaise réservée. Il nous a dit que le berger, il nous connaît par notre nom. Et s'il dit, je vais vous réserver une place, et cette place en tant que l'Église, c'est ce qu'on est en train d'étudier les dimanches matins. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est à la droite de Jésus-Christ. C'est ça, le ciel. C'est ça ce qui nous attend. Hein? C'est ça ce qui nous attend. Une autre image du ciel. Le ciel, c'est une magnifique maison. Pas seulement c'est la maison du Père, mais c'est une magnifique maison. Pourquoi est-ce que c'est une magnifique maison? Ben, regardez Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Vous pouvez dire, mais c'est la maison du Père de Dieu, donc. Non, mais c'est une magnifique maison. 21, verset 10. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà, l'épouse, la femme de l'agneau, c'est l'Église. L'Église est la femme de l'agneau. Hein? Parce qu'il y aura le mariage entre l'épouse, entre l'Église et l'agneau dans le ciel. Hein? La Bible, elle est claire, il le dit, il l'affirme. Et il continue, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges, des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 154 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième des topazes, le dixième des chrysophases, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améliste. Voilà, c'est toutes des pierres précieuses hein, que nous n'avons jamais vues. Hein. Mais imaginez que c'est des portes. Cette muraille, elle est faite de tout ça. Pourquoi il peut être comme ça? Parce que c'est la maison de Dieu. C'est notre demeure. Hein? Et il continue. La ville, voilà, il dit 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Voilà, c'est la Jérusalem céleste. Hein? Et il dit, je ne vis pas des temples dans la ville. Dans la Jérusalem terrestre, il y aura un temple. Mais dans la Jérusalem céleste, le temple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de temple. Pourquoi? Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, et etc., etc., jusqu'à la fin. C'est ça, c'est magnifique. C'est pas seulement la maison du Père, mais c'est une magnifique maison. Et cette maison, elle est pour nous. Voilà où nous allons habiter. Voilà comment c'est le ciel. À quoi bon chercher autre chose? À quoi bon chercher autre chose? Déjà, dans notre pauvre terre, salie par les péchés, il y a de très belles choses, n'est-ce pas? Hein? Il y a de très belles choses à voir, à admirer. Donc, imaginez-vous dans la maison de Dieu, si les choses ici-bas, ternies par les péchés, elles sont belles, elles sont merveilleuses, imaginez-vous les choses qui sont là-haut dans le ciel, où tout est pureté et où le Dieu Tout-Puissant y règne. Quelle consolation pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la beauté même, Dieu. Et cette beauté, il nous la réserve pour tous ceux qui lui font confiance. Et il a réservé pour tous ceux qui lui font confiance cette habitation, le ciel. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et pas seulement ça, une autre image, la cinquième et dernière image. Le ciel, c'est une maison heureuse. Le ciel, c'est une maison heureuse. Ça veut dire quoi, une maison heureuse? Que tout est bonheur. On vient de le voir. Hein? Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas tout ça. Tout est bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Hein? Et vous savez, c'est un peu comme dans Luc 15, le Seigneur, il parle. Hein? On appelle ça, Luc 15, on appelle la parabole des perdus. Il nous raconte trois paraboles. La drachme qu'il a perdue. Hein? Et ensuite, il nous dit, d'abord c'est les brebis perdues. Ensuite, c'est la drachme perdue. Et ensuite, c'est les fils perdus. Et dans ces trois paraboles, il y a trois choses qui se suivent. Dans chaque parabole, ils se suivent et il dit perdu, perdu, retrouvé, retrouvé et joie. Perdu parce qu'on est dans les péchés, n'est-ce pas? Retrouvé parce que Dieu, il nous a appelés, Dieu, il nous a montré son salut. Résultat de ce salut, la joie. Hein? Et la Bible, il nous parle beaucoup de cette joie à propos de ce ciel dans lequel nous allons vivre. Et nous lisons dans les psaumes 16, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, l'Éternel. Tes délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » C'est notre demeure. C'est notre demeure. Et Dieu n'est pas un Dieu ennuyeux, triste. Et nous, même le Seigneur, il nous le dit. Lorsque quelqu'un s'est converti, il y a de la joie dans le ciel. Ça danse. On loue Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Il y a la joie. Dieu, c'est un Dieu de joie. Beaucoup, ils croient qu'il n'y a que de la joie dans le péché. Ah oui, devenir chrétien, combien de choses je vais être privé. Tandis que sortir avec une belle fille, un beau garçon, aller danser, aller faire la java, oh là oui, c'est le péché. Mais sachez que toutes ces joies-là, elles sont passagères. D'ailleurs, nous l'avons tous expérimenté, moi et vous aussi. Les joies que nous pouvons avoir, on peut s'amuser ce soir, mais demain matin, la joie est passée. Pourquoi ? Parce que tout est éphémère de cela. Mais la joie que Dieu nous donne, c'est une joie qui ne passe pas, parce qu'elle vient de Dieu. Hein? Et tous ceux qui balayent la présence de Dieu, qui n'acceptent pas ce que Dieu nous dit, leur joie, il s'évanouit. Et leur vie après la mort, il sera une vie de douleur, de peine. Voilà pourquoi lorsque Jésus il a raconté la parabole de Lazare, vous vous en souvenez, ils se trouvaient tous dans le séjour des morts. Mais il y a Lazare qui était dans les seins d'Abraham, dans le paradis d'Abraham. Parce qu'avant, tout le monde il allait dans le séjour des morts. Hein. Ça, il faut que vous le sachiez. Avant que Jésus-Christ meure sous la croix, on allait tous dans le séjour des morts. Ces séjours de mort, il était partagé en deux. Il y avait le sein d'Abraham et il y avait le séjour de mort dans les flammes, dans les peines, dans la souffrance. Le riche, qu'il avait vécu une vie des riches, sans penser aux autres mais à lui-même, donc dans le péché, il est descendu dans le séjour de mort. Et c'est là que Et Lazare, il est monté dans les seins d'Abraham. C'est là que pendant ses souffrances, il a levé les yeux, et il a vu Lazare et Abraham. Et c'est là que cet homme, qui n'a jamais fait attention à lui-même ou même aux autres, il a dit, « J'ai soif, Père Abraham, envoie Lazare, afin qu'il puisse... » juste tremper le doigt dans l'eau et qu'il puisse venir ici me le donner. Abraham, il a dit, il y a un abîme infranchissable entre vous et moi et nous. Il ne peut pas venir vers toi. Pourquoi ? Car notre destination, nous la choisissons nous-mêmes. Nous la choisissons nous-mêmes. Et aujourd'hui, dans certaines églises, il y a des gens qui se tournent, qui lancent des prières vers des saints. Ici, on voit l'exemple, le résultat de quelqu'un qui se tourne vers un saint. Pas Lazare, mais Abraham, le père des croyants. Il dit, Père Abraham, envoie. Un résultat, il a dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Aujourd'hui, on tourne nos prières vers des saints, vers des vierges, je ne sais pas, sauf Dieu. Mais qui sait qui peut donner quelque chose ? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui a tout pouvoir, pas les saints. Les saints, ils sont là, ils ont compris la volonté de Dieu. Qu'en plus, ils appellent le saint, parce que quelqu'un, il a fait saint. Mais les vrais saints, c'est nous qui avons Jésus-Christ dans notre cœur. D'ailleurs, Paul, il nous le dit. Il dit aux saints qui sont à Corinthe. Ils n'étaient pas morts, hein, et pourtant, il les appelle saints. Aux saints qui sont à Philippe. Aux saints qui sont à Philadelphie, aux saints qui sont à Rome, c'est les vivants. Pourquoi nous sommes saints ? Parce que Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Et nous sommes saints pour cela. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est une maison heureuse. Les ciels, une maison heureuse. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a rassemblé tout autour de lui des gens qui ont accompli et ils accompliront sa volonté. Donc il régnera la paix et rien ne viendra entacher ses bonheurs dans le ciel. Rien. Ici-bas, Hein? Les joies, ils sont des courtes durées, comme je dis. Mais dans le ciel, personne et rien il pourra entacher cette joie. Et qu'est-ce que c'est qu'il va faire Dieu dans Apocalypse 21, 4, on l'a vu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Et Apocalypse 21, 8, il n'y aura plus de lâches, d'incrédules, d'abominables, de meurtriers, d'impudiques, d'enchanteurs, d'idolâtres, de menteurs. Pourquoi ? Parce que c'est la maison de la joie de Dieu pour tous ceux qui lui ont fait confiance. Les autres, ils seront jetés en enfer. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un il s'est converti au Seigneur Jésus, lorsqu'il ouvre son cœur, il lui fait confiance, nous allons directement au ciel. Parce que Jésus, il a dit au larron, il a dit, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. C'est à la mort de Jésus que les portes du paradis, de la maison de Dieu, ont été ouvertes. Voilà pourquoi il nous a dit que Jésus, il est descendu aux enfers, prêcher, pas pour sauver ceux qui sont dans l'enfer, car il y a une seule et unique décision que nous devons prendre, que du vivant. Mais il est venu manifester à ceux qui s'y trouvaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, pour les prendre avec lui et les monter au ciel. Et aux autres, il leur dit, regardez, je suis vivant, je suis venu pour expier les péchés, vous ne m'avez fait confiance, votre vie elle sera éternellement ici-bas. Entre quelqu'un qui s'est converti, il va au ciel. Quelqu'un qui n'accepte pas le Seigneur Jésus, où est-ce qu'il va? Quelqu'un qui n'accepte pas le Seigneur Jésus, il va dans le séjour des morts. Il ne va pas en enfer. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans l'Apocalypse, il nous a dit que le Seigneur, il a parlé au séjour des morts, il a dit « crachez les morts ». Parce qu'il va y avoir le jugement du grand trône blanc. Et une fois que ce jugement il a été exaucé, il va les envoyer dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas comme un endroit qu'il a été présenté, surtout dans le Moyen-Âge. Un endroit où il y a les diables avec une fourche qui prend les corps et les jette dans les feux, dans l'eau bouillante et tout ça. La Bible nous dit dans Matthieu 24 que l'enfer, il a été préparé pour les diables. C'est là le diable qui va souffrir, qui va peiner. Et ce n'est pas lui qui est le roi de l'enfer, mais c'est quelqu'un qui est là pour souffrir, pour avoir le jugement de Dieu sur lui. Ça, c'est tous des enseignements des gens qui ont écouté ce que l'homme il dit. Voilà pourquoi je vous ai présenté toutes ces images de ce que Dieu il nous dit dans sa parole du ciel. De l'endroit où est-ce que nous allons. Et nous devons faire confiance à ces images-là. Pourquoi? Parce qu'elles viennent du ciel, elles ne viennent pas de quelqu'un ici-bas. Parce que l'homme, il peut être je ne sais pas quoi, et il peut dire je ne sais pas quoi, mais nous devons faire confiance à ce que la Bible dit. Amen. C'est là que les chrétiens doivent dire amen. C'est ça. Et nous devons croire ces choses-là. Oui, le ciel est une maison heureuse. Même si elle travaille. Vous me direz, mais on travaille au ciel? Il nous est dit d'Apocalypse 22, 3, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mais ce n'est pas un service servile, c'est un service d'amour. Nous servirons Dieu. Et nous verrons sa face. Et je vous révèle quelque chose. Au ciel, il n'y aura pas de chômage. Il n'y aura pas de chômage, mais du travail pour tous. Vous savez, le travail, c'est, il est arrivé à cause de la chute. Mais au ciel, il n'y a plus de péché. Il y a un travail qu'on accomplit avec joie, qu'on accomplit pour celui qui nous a sauvés. Voilà pourquoi c'est quelque chose de formidable. Nous les servirons et constamment, nous allons crier « Alléluia ! Gloire à l'agneau, gloire à Dieu ! Tes jugements, ils sont justes. » C'est ça le cri. Et nous verrons tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts, qui ont accepté Jésus-Christ. Nous le verrons tous. Nous verrons les grands patriarches. Nous le verrons parce qu'ils seront là aussi. Nous verrons toutes ces choses-là. Hein? Le ciel, c'est une maison de bonheur. Pourquoi? Car là, ils sont réunis tous les enfants de Dieu. Car là, la volonté de Dieu, elle est accomplie. Plus de peine, plus de mort, plus de tentations, plus de péchés, plus de besoins. Et pourtant, dans cette vie, il y a ceux qui disent que la vie d'un chrétien, il doit être heureux ici-bas sur terre. Il ne doit pas exister des chrétiens pauvres, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Donc automatiquement, ils doivent avoir une vie heureuse, avoir les plus belles maisons, les plus belles voitures. Nous, on est chrétiens, n'est-ce pas? Et on peut dire à ces gens, tu es menteur. Pourquoi? Parce que le Seigneur même, il nous l'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu toutes ces choses-là. Jésus, le Fils de Dieu, il a eu quoi en venant sur cette terre? Que des malheurs. Ils l'ont rejeté et pourtant il a fait du bien. Il a manifesté la grâce de Dieu. Résultat, crucifie-le. Non, la vie de chrétien, c'est une vie dure, pénible. Mais nous avons Jésus-Christ qui est avec nous. Voilà pourquoi nous devons faire confiance. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils unique du Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, les commencements, la fin. Tout est basé sur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, votre vie est gâchée. Votre vie est gâchée. Hein? Mais si vous avez Christ, notre demeure, c'est le ciel. Cet endroit merveilleux que Dieu il a préparé pour chacun de vous. Mais une question se pose. Est-ce que vous serez au rendez-vous? Est-ce que vous serez là? Dieu, il ne désire que ça, que tous ils peuvent y aller. Peut-être un jour, je vais vous montrer cette Jérusalem céleste, parce que là, on a vu de combien la muraille il avait de, je sais pas, de coudées, tout ça, de largeur, de hauteur. Je vais vous montrer les vraies longueurs, hauteur et largeur avec des mesures d'hommes d'aujourd'hui pour voir combien cette Jérusalem que Dieu il a préparée, elle est grande. C'est pas, il n'y aura pas ces soucis comme ici sur cette terre qu'on dit oui, on devient de plus en plus nombreux, il n'y aura plus rien à manger, ni pour les uns ni pour les autres. Là, on est sous la protection de Dieu. Donc, à quoi bon continuer à renoncer à ce bien-être que Dieu nous a préparé? Et cela, encore une fois, ne dépend que de nous. Je vous laisse avec cette pensée. Voulez-vous habiter ce ciel? Prenez la bonne décision. Et ce n'est pas une décision que quelqu'un d'autre il peut prendre à votre place. C'est à chacun de nous de décider, oui, je vais demeurer dans cet endroit que tu as préparé pour moi, ou sinon dire à Dieu, non, je ne vais pas. Et vous savez, Dieu il n'insistera pas. Hein? Dieu, il me dira que ta volonté soit faite. Va rejoindre celui auquel tu as fait confiance. Que le Seigneur nous aide dans ces choses-là.
Amen.
Amen. Jean-Pierre, tu veux